Bonjour les sportives et les sportifs. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure. Attrapez les rames, nous partons pour la traversée de l'Atlantique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. J'ai créé ce podcast avec Apirons, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point si important et si complexe, la nutrition est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Oui, et aujourd'hui, c'est vraiment un aventurier. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure. L'aventure avec un grand A, comme la traversée de l'Atlantique à la rame, ou avec un petit M de micro-aventure, comme ces petits défis à la sortie du boulot avec pour objectif d'être à l'heure le lendemain au travail. Et vous verrez que Lilian Dosa, mon invité, ne manque pas d'idées. Attention, je dois vous prévenir, l'écoute de Lilian est contagieuse. Je vous garantis que ça devrait vous démanger à la fin de l'épisode. Ensemble, nous avons parlé de toutes ces aventures, de leur déroulement, de leur préparation. Il m'a raconté le régime alimentaire à bord du bateau pendant la traversée de l'Atlantique, le rythme de vie, la préparation physique et mentale, les stratégies pour monter un tel projet. Et nous avons aussi parlé de ses anciennes aventures, justement ces micro-aventures, et comment on passe de micro-aventure à grande aventure, en passant par quelques étapes intermédiaires qui sont de sacrées aventures aussi. Je dois vous le dire, et vous l'entendrez très probablement, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec Lilian, et je vous invite à aller le découvrir un petit peu plus sur son compte Instagram, sur son site, sur son blog et toutes ses aventures. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode et sur le site du podcast apiron.fr/podcast. Et n'oubliez pas que nous publions aussi les compliments et la recette de nos invités sur le compte Instagram @podcastsportetnutrition. Allez, maintenant, je vous laisse écouter ma discussion avec Lilian. C'est parti pour l'aventure. Bonjour Lilian.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh bien, je vais très bien, je te remercie.
Alors c'est une question toujours importante, surtout quand je rencontre un aventurier, parce que dans ces temps, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas bouger, on peut pas partir à l'aventure. Et je me demande comment le mental va en fait.
Écoute, le mental va plutôt très très bien. Je suis rentré il y a à peine 3 mois de ma dernière grosse aventure et elle était à ce point confinée que les conditions actuelles me paraissent être une totale liberté.
Oui, je veux bien le croire, effectivement, dit comme ça. Alors, on va pas mettre de suspense, on va dire tout de suite ce que c'était cette aventure.
Donc, ça consistait à traverser l'océan Atlantique à la rame, à deux, avec un ami. Et c'est 47 jours de mer sur un tout petit bateau d'à peine 7 mètres. Donc, un confinement vraiment extrême.
Et vous êtes toujours amis ?
Toujours. C'est la bonne nouvelle.
Non, parce que moi, qui aime bien mon espace de liberté, mes espaces, être tout seul par moment, etc. Je me dis quand même, confiné sur un tout petit bateau, je sais pas la taille, tu l'as dit la taille du bateau ?
C'est 7 mètres, ouais.
7 mètres. Donc, une coquille de noix sur l'Atlantique de 7 mètres comme ça, des vagues, j'imagine, plein de conditions, ça doit pas être simple.
Non, c'est pas simple, mais comme je le réalisais il y a pas longtemps, si la traversée elle a mis 47 jours, en vrai elle a mis 1270 jours de l'idée jusqu'à la ligne d'arrivée en Martinique. Donc on a évidemment préparé tout ça en particulier sur l'aspect mental qui est un des plus gros challenges sur cette aventure. Et finalement on se rend compte que oui, on est tous les deux sur un tout petit bateau, mais on peut très facilement ne jamais se voir en fait parce qu'on fonctionne par shift de 2 heures. Mmh. Donc il y en a un qui rame pendant 2 heures, donc l'autre se repose pendant 2 heures. Donc finalement, on a vite fait juste de se croiser uniquement sur le bateau. Et il faut au contraire veiller à aménager des temps ensemble pour échanger et pas se retrouver à finalement faire 2 traversées solo chacun de son côté. Quoi.
Ah oui, c'est vraiment surprenant, hein, dit comme ça, parce que moi j'imaginais pas ça. Je me suis dit, bon, vous ramez, puis au bout d'un moment, vous prenez une petite casse-croûte et puis vous ramez à nouveau. Mais non, c'est pas comme ça la vie sur un bateau alors.
Non, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que c'est à la fois très lent et à la fois extrêmement timé. C'est-à-dire que quand tu sais que t'as 2 heures à ramer, voilà, t'attends vraiment tes 2 heures, mais quand le chrono sonne, tu lâches les rames immédiatement et l'autre doit immédiatement prendre le relais. Et en fait, les quelques minutes que tu pourrais perdre sur le changement, ils paraissent anodins, mais en fait, répéter 12 fois par jour sur 47 jours, bah, t'as vite fait de perdre 2 jours. Et en fait, l'expérience est tellement extrême que franchement, si tu peux gratter 2 jours, tu les grattes.
Ah oui, ça joue à ce point-là, effectivement, ces petites minutes sur chaque changement ont un tel impact au final, ouais.
Ouais, ça peut vraiment avoir un impact et donc on a essayé de millimétrer les changements, d'être efficace et puis même en termes de cohésion entre nous, t'as tellement envie d'arrêter de ramer au bout de tes 2 heures que t'as pas envie que l'autre en face il ait du retard, que ça prenne du temps. Mine de rien, le bateau peut vite se retourner en fait face au vent si jamais on est trop lent sur le changement et remettre le bateau dans l'axe, ça prend encore plus de temps, d'énergie. Enfin, c'est vite très compliqué, donc on essaie d'éviter tous ces petits points de friction, et c'est ce qui fait qu'au global, bah, la traversée, elle se passe plutôt bien ou plutôt moins bien.
Oui, alors en plus, il y a une petite phrase sur le site, tu dis que plus de grimpeurs ont gravi l'Everest que de rameurs ont traversé un océan.
Tout à fait. Tout à fait, et je pense que ça va continuer d'être vrai quand on voit les files d'attente qu'il y a pour atteindre le sommet de l'Everest. Mais effectivement, on est peu nombreux à se lancer dans l'aventure. Malgré tout, on est quand même de plus en plus nombreux à tenter cette aventure. Je ne sais pas combien de rameurs précisément ont traversé, mais moi j'ai découvert en fait cette activité au travers d'une course qui se fait tous les ans. Et en fait, c'est des Anglais qui organisent ça depuis maintenant une dizaine d'années. Donc tous les ans, ils envoient une quinzaine, une vingtaine de bateaux à travers l'Atlantique.
D'accord, alors il y a donc une course, alors il y a que des Anglais pour imaginer ce truc-là, bon bien sûr, qui donc le principe c'est comme ça, ils partent le même jour, tous en même temps, et puis c'est le premier qui arrive de l'autre côté.
Exactement. Alors, ça n'a de course que le nom, entre guillemets, parce que, en fait, tu vas avoir des équipages à la fois de solo, des duos comme nous, des bateaux de 4, parfois des bateaux de 6, qui ont tous leur histoire, leur composition d'équipage, mixte, pas mixte, vieux, jeune, très vieux. Enfin, donc, voilà, tout le monde est là, globalement, pour traverser. Après, il y en a toujours plus compétitifs que les autres qui veulent arriver premier. Mais voilà, l'esprit, c'est plus de d'abord traverser ensemble et après, éventuellement, de rentrer dans un aspect plus compétition.
Et alors, vous, votre traversée, vous ne l'avez pas fait dans ce contexte-là, si?
Non, alors c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait au départ on voulait le faire dans le cadre de cette course. En fait, comme je disais, moi j'ai découvert la rame océanique au travers de cette course un jour au hasard de mes déambulations sur les réseaux sociaux. Et au début ça m'a littéralement terrifié. J'ai vu ça, je me suis dit c'est impossible. Enfin, comment on peut avoir l'idée de se lancer là-dedans? Et j'ai suivi une première édition et puis une deuxième et progressivement la peur s'est transformée en curiosité. Et pourquoi pas moi? Et au moment où je me suis dit ça, ça m'a paru un peu comme une évidence de m'inscrire à la course en me disant ça va mettre un cadre à la préparation et on sera sûr de partir dans les meilleures conditions. Donc ça n'a jamais été, ni pour Guilhem, mon coéquipier, ni moi-même, un objectif compétitif. Ça a toujours été de se dire, nous, on connaît rien à la mer. Moi, mon expérience de la mer, ça se résumait au ferry pour aller en Angleterre. Donc, on se dit, tant qu'à faire, autant mettre toutes nos chances de notre côté. Et donc, on est rentré dans le process de la course. Et on prévoyait de partir sur l'édition 2019 de la course. Donc on a tout fait pour partir en décembre 2019 et manque de bol, 3 semaines avant le départ, Guilhem, mon coéquipier, se casse le pouce, ce qui évidemment est très problématique pour une aventure comme celle-là. Et donc en l'espace de 2 heures, il faut revoir intégralement le projet. Au départ, on s'est dit bon, on va partir sur l'année suivante, sur l'édition suivante. Et sauf que ben, pas de chance pour nous, l'édition suivante était déjà pleine. Déjà trop de bateaux. Et moi, concrètement, j'étais pas prêt à attendre encore 2 ans pour repartir. Et en fait, avec Guilhem, on s'est vite rappelé les raisons pour lesquelles on s'était mis dans la course et de se dire, bah, en fait, ce qu'on voulait, c'était être préparé. Aujourd'hui, la course nous attend sur la ligne de départ. Donc, c'est qu'ils estiment qu'on est prêt. Donc, si eux estiment qu'on est prêt, vu que c'est une course en autonomie, bah, c'est qu'on est capable de la faire par nous-mêmes. Et donc, à ce moment-là, on a pris la décision en 2 heures de temps de se dire, bon, bah, écoute, tant pis, on part nous-mêmes l'année prochaine. On va se constituer notre petite équipe avec un routeur, avec un médecin, etc. Et on va partir de notre côté.
T'avais ramé le jour où t'as regardé sur les réseaux sociaux. Non, parce que les réseaux sociaux sont quand même très dangereux, Internet, etc. Hein, enfin, Cyril Blanchard, dans le premier épisode, disait qu'il cherche sur Internet, il trouve l'Enduroman, qui est un triathlon entre Paris et Londres. On va y revenir, parce que vous aussi, vous avez eu votre traversée de la Manche, mais à votre manière. Et je me dis, c'est quand même super dangereux, les réseaux sociaux, quand même. Pour le mec qui a un peu l'esprit d'aventure, ça peut t'embarquer dans des aventures dingues. Mais je me dis, t'étais rameur avant?
Non, non, moi j'ai jamais fait enfin, vraiment, mon expérience du bateau, c'était le ferry pour rejoindre l'Angleterre et c'est tout. J'avais jamais fait d'aviron, j'avais jamais fait de tout ça. Et en plus, donc j'ai découvert la rame au travers de la course et les Anglais sont excellents pour ça, pour mettre en scène les choses de manière extrêmement dramatique, d'où le côté très terrifiant au début. Et en fait, moi, ce qui m'a animé dans toute la préparation de ce projet, mais de tous les autres que j'ai fait avant, c'est de se dire, ok, ce challenge, il a l'air juste énorme. Comment je le déconstruis pour le rendre possible? Et c'est en fait d'arriver à passer des peurs vraiment comment dire, archaïques qu'on peut avoir spontanément face à ça, prendre le pas de recul qu'il faut et se dire, ok, ça c'est les peurs qui viennent spontanément, mais les vrais dangers, ils sont où? La vraie préparation qu'il faut, c'est quoi? Et comment on peut se mettre en mouvement pour le faire? Et en ce sens, bah, cette discipline, elle a été géniale.
Et alors, j'ai envie de dire, c'était quoi finalement au départ? Parce qu'on va le faire en deux temps. Au départ, tu te dis comment on se fait des films, comment ça peut se passer, sur quoi il faut se préparer, à quoi il faut vraiment que je me prépare. C'est quoi ce qu'on anticipe avant de mettre le bateau, avant de partir là pour ces 47 jours-là?
Il y a énormément de choses. La liste est quasiment sans fin, mais je dirais que clairement le plus gros morceau, c'est vraiment la partie mentale, de très 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 loin. Parce que quand on fait justement cet exercice de déconstruction un peu de ce que ça va être vraiment, on se rend compte assez rapidement que si on ne fait pas de grosses conneries, si on se prépare bien, il n'y a pas de raison que ça finisse mal. Par contre, il y a plein de raisons que l'expérience soit extrêmement inconfortable, extrêmement pénible, et qu'on ne pourra pas faire grand-chose contre ça. Donc, il y a une vraie logique d'endurcissement, alors physique certes, mais surtout mental, de comment je vais tenir face à tout ça. Et spontanément, on va penser à la peur de la grosse mer, on va penser à l'isolement, on va penser à la durée. Mais en fait, il y a plein, plein, plein de choses qui viennent se superposer à tout ça. Et finalement, quand on regarde dans le rétro aujourd'hui, il n'y a pas un truc en particulier plus dur que tout le reste, mais c'est la somme de tout ce que tu viens empiler qui fait que tout d'un coup, l'expérience, elle devient presque insupportable.
Presque insupportable.
Presque insupportable, puisqu'on arrive quand même à la supporter et arriver au bout.
Et oui, c'est ça. Et tous les deux entiers, hein, en étant encore bons potes à l'arrivée.
Ouais, tous les deux entiers, on s'est pas tapé dessus, jamais personne n'a voulu jeter l'autre par-dessus bord. Mais effectivement, alors déjà, on n'est pas parti comme ça, hein. On a fait plus de 200 heures de rame ensemble sur le bateau, dont un entraînement de 4 jours consécutifs pour vraiment aller taper dans le dur. Donc voilà, on est parti serein sur le fait qu'a priori, on avait de bonnes chances que ça se passe très bien. Il y a toujours une part d'aléa, puisque comme je dis toujours, tout ce qui nous est arrivé, on le savait, on nous en avait parlé, on avait échangé avec des dizaines de rameurs, mais entre en avoir conscience et le vivre, mais c'est pas un fossé qu'il y a, c'est énorme le gap. Un exemple, c'est anecdotique et ça fait rire, mais c'est très vrai. Par exemple, on nous avait dit, vous verrez, il y a beaucoup de poissons volants sur l'Atlantique, et à la fin, vous en avez marre, c'est trop, quoi, en fait. Et bon, ça fait rire au début, et en fait, tu te rends compte, à partir de la deuxième nuit, que quand tu es dans le noir complet, que tu es la seule lumière sur l'océan, parce que tu as quand même un phare de signalisation, et que tu as des poissons volants qui vont faire une vingtaine de centimètres, qui t'arrivent droit dans la figure, parce que ta figure est à côté du phare, à une vitesse mais digne d'un service de tennis, et que le poisson il t'éclate en milliers de petites écailles sur la figure. En fait, la première fois, ça te fait gentiment rire, et puis la deuxième nuit, tu commences à craquer, et au bout de 47 jours, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Mais ça, on a beau te l'expliquer, tant que tu l'as pas vécu et que t'as pas superposé à ça le manque de sommeil, les petits bobos, le manque de la famille, l'isolement, etc., etc. En fait, on se rend pas compte de ce que c'est vraiment là.
Vous avez fait des barbecues avec les poissons volants ou...
Non, non, alors surtout qu'en plus, ces poissons volants, c'est vraiment une. C'est chiant parce que tu peux pas les manger, à moins de les faire cuire, mais c'est tout petit, ça, dès qu'ils sortent de l'eau, en fait, ils se délitent. Enfin, non, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et par ailleurs, cuisiner sur le bateau, enfin, cuisiner si on peut dire ça, t'essayes d'aller au plus simple, au plus efficace, et clairement, cuisiner du poisson, c'est pas le truc le plus pratique. Ça va salir ton bateau, tu vas mettre du sang partout. Donc, nous, on a fait le choix de ne pas pêcher et de ne pas chercher à manger les produits de la mer.
Alors, on en vient donc à la nutrition. Qu'est-ce que donc vous avez mangé pendant ces 47 jours? parce que en plus, enfin, vous avez ramé 12 heures chacun, chaque jour. Donc, il faut quand
Ouais.
même nourrir la bête.
Ouais, tout à fait. Et ça, c'est un très très gros morceau. Au-delà même de la traversée en tant que telle, c'est aussi un gros morceau avant la traversée. Puisqu'en fait, de manière très macro, sur une traversée océanique, on estime que tu vas consommer à peu près 7 à 8 000 calories par jour
Wow.
entre l'effort physique. Voilà. Donc entre l'effort physique, le fait que tu es toujours à l'extérieur, toujours exposé aux éléments, que même quand tu es allongé, en fait, tu es tout le temps en train de gainer parce que le bateau il bouge dans tous les sens, enfin, t'es jamais au calme. Donc tu as à peu près ce niveau de consommation. Et en face, tu peux difficilement mettre plus que 6 000 calories par jour. En fait, il y a un moment, tu peux juste plus manger, quoi. C'est plus possible. Donc de fait, tu vas avoir un déficit calorique tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc une grosse partie de la préparation, c'est de prendre du poids avant le départ pour pouvoir ensuite le perdre pendant la traversée. Et pour nous, avec Guilhem, on n'est pas des gros gabarits au départ. Donc ça a été un gros sujet pour nous. Ça a vraiment été difficile pour nous d'aller prendre de la masse. Parce que tant qu'à faire, tu essayes de faire un travail où tu vas d'abord prendre de la masse musculaire, tant qu'à avoir du poids, autant qu'il serve à quelque chose. Et seulement sur la fin, juste avant le départ, tu vas essayer de charger un peu plus en gras pour voilà, faire de la graisse et en vue de la perdre après sur la transat. Donc on dit qu'en général, il vaut mieux essayer de prendre à peu près 10 kilos pour aller les perdre ensuite sur l'Atlantique.
Pour ceux qui ne se rendraient pas compte de ce que ça fait, 7 à 8 000 calories, je viens de refaire de recherche. Et donc, un burger d'une célèbre marque très gras, etc., et pas du tout naturel, fait 500 calories. Et une frite, une portion de frite, une grande frite, fait 400 calories. Ce qui veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'il faudrait manger 7 fois le menu par jour pour arriver à les dépenser. Et là, j'ai une pensée pour Michael Phelps. On disait qu'il mangeait je sais pas combien de hamburgers par jour et qu'il est cramé parce que c'est ce qu'il dépensait tous les jours en nageant. Et les gens s'étonnaient de dire, mais il peut manger ça, etc. Mais oui, mais parce qu'on comprend la consommation de calories. Mais bon, vous n'avez pas mangé ça, vous avez mangé quoi finalement pour arriver à vous à prendre du gras, enfin pas du gras, du muscle et du poids, enfin.
Alors avant le départ, donc on a essayé d'adopter des régimes de type prise de masse, hein, donc on met à la fois de l'intensité dans l'entraînement physique, et on essaie de manger riche en protéines, de manger souvent, donc on va faire jusqu'à 5 repas par jour, en essayant de regarder quand même à les répartir en termes de macro assez correctement. Ça, c'est difficile au-delà de la discipline de le faire. Socialement, c'est aussi un peu compliqué, surtout quand tu as une famille, qu'il faut faire à manger pour tout le monde, etc. Et par ailleurs, il y a un moment, en fait, on a juste marre de manger, quoi. Enfin, voilà, quand le matin à 10 h, tu as déjà pris ton plat de lentilles, que tu fais un repas à midi et qu'à 4 h, tu dois remettre ça, et à un moment, t'en as juste marre. Donc, c'est ça on va dire, sur quelques mois avant de partir. Et un mois avant le départ, là, par contre, c'est open bar sur tout ce qui est gras, sucré, salé, en gros, ouais, pour essayer de faire du gras au maximum. Chose qu'on a eu beaucoup de mal à faire. Je pense qu'on a, Guilhem et moi, des métabolismes qui ont du mal à absorber ça. Donc on est parti en ayant pris chacun à peu près 5 kilos, mais qu'on a mis plus d'un an à prendre, quoi. Donc ça a été laborieux quand même.
Ah oui, alors que moi, tu vois, j'ai pris 4 kilos, là, en quelques semaines, juste en mangeant du chocolat, avec mes opérations, mes deux opérations que je viens de subir. Mais bon, après, chacun son métabolisme. Mais en fait, c'est aussi que prendre du poids quand on a l'entraînement physique, c'est pas simple. Parce que finalement, je sais pas combien de calories vous avez dépensé pour vous entraîner à ramer. Mais j'ai envie de dire, c'est double effort, quoi. J'en avais parlé avec Marine Leleu, qui avait dû prendre du poids aussi sur. Et on en avait parlé aussi avec Cyril Blanchard sur l'histoire de pour traverser la Manche à la nage, il vaut mieux prendre un peu de gras. Mais comme en même temps, on doit courir et rouler, ben, c'est des sports où on a une tendance à perdre. Et vous, vous avez ramé, ramé, ramé pour vous entraîner à ramer. Et en même temps, il faut arriver à prendre du poids. Ça me paraît
Alors,
tellement
ouais.
inconciliable, cette histoire.
Bah, en fait, c'est toute la complexité de l'exercice, c'est que, et ça va te surprendre, mais pour traverser l'Atlantique, on n'a pas ramé pour s'entraîner. Enfin, en tout cas, pas en salle. On a fait 200 heures sur notre bateau, mais plus pour être sur le bateau.
Ouais.
Par contre, on évite absolument de faire du rameur et de faire tout ce qui est cardio, parce que justement, ça a plutôt tendance à te faire fondre.
Et oui.
Et donc on va concentrer nos efforts vraiment sur des exercices plus de musculation, quoi, vraiment. Donc on lève de la fonte, du poids de corps, enfin tout un tas de choses. Et effectivement, bah, ça augmente ta dépense calorique, donc raison de plus de manger encore plus, quoi. Donc l'exercice, franchement, il est pas simple. Et finalement, la partie prépa physique, elle est vraiment orientée autour de cette prise de masse. En fait, et c'est pour ça, par exemple, qu'on va pas particulièrement faire de rameurs. Alors, tu as des rameurs océaniques qui vont faire beaucoup d'ergo parce qu'ils aiment ça.
Ouais.
Mais en fait, j'ai envie de dire, ça sert à rien. Là. Parce que d'un côté, donc c'est cardio, donc ça te fait plutôt perdre de la masse alors que tu cherches à en prendre. Et de l'autre côté, tu vas travailler un mouvement en fait qui est parfait, qui est millimétré, où rien ne bouge. Alors qu'en fait, dès que tu es sur l'Atlantique, un coup sur deux, tu as la main droite à un mètre de haut parce que la pelle est partie dans un sens, la main gauche, elle est encore dans l'air parce que la vague n'est pas encore dessous. Enfin, t'es jamais réglé comme un aviron sur un lac ou sur une rivière où tout est parfait. C'est la bagarre, quoi, sur le bateau. Donc finalement, ce mouvement que tu vas répéter pendant des centaines d'heures sur l'ergo, tu l'utilises pas. Si tu as compris quel est le mouvement et ça, t'as pas besoin d'en faire 4 heures, hein, c'est bon, tu sais ce qu'il faut faire, quoi.
Donc, on a compris que avant, faut manger, mais que c'est pas facile. Et sur le bateau, qu'est-ce qu'on mange?
Et sur le bateau, qu'est-ce qu'on mange? Alors, on va focaliser sur tout ce qui est dense en calories et qui peut se préparer facilement ou qui n'a pas besoin de préparation. Donc, tous les jours, on sort, on s'était préparé avant de partir des sacs de rations quotidiennes. Et dans chaque sac, on avait donc 4 repas lyophilisés. Donc là, voilà, tu ouvres ta poche, tu mets ton eau chaude, tu attends 3 minutes et c'est réglé. En complément de ça, on avait également 2 rations de smart food. Donc c'est tous ces substituts de repas qui sont en poudre, il suffit d'ajouter de l'eau et ça te reconstitue un repas en termes d'apport nutritionnel complet.
Genre le truc que je prends moi à midi quand j'avais pas le temps de manger le truc, je prends je mets
l'eau,
je mélange et c'est de l'avoine avec de la flotte dedans, quoi.
Ouais, exactement. Donc ça, on avait 2 rations quotidiennes. Et ensuite, on avait à peu près 10 ou 12 barres chocolatées, barres de céréales par jour.
Waouh.
Voilà. Et avec ça, t'as ta ration pour la journée.
Et c'est par personne là que t'es en train de me dire?
Par personne, tout à fait.
Donc, je suis en train d'essayer de calculer combien vous avez amené de barres chocolatées sur votre bateau, en fait.
C'est limite des milliers, en fait.
Oui.
Enfin, le jour où on allait faire les courses pour récupérer ça, le caddie était juste dément. Il était rempli.
On peut vraiment faire les courses en disant je vais dans le magasin d'à côté, je vais acheter 1200 barres chocolatées, là?
Ah bah pour ces barres-là, ouais, concrètement, tu vas dans la grande surface à côté de chez toi et puis tu vides le rayon de tout ce qu'il y a.
Ils auraient pu vous sponsoriser quand même. Vous avez pas essayé de vous faire sponsoriser par un vendeur de barres?
Si, si, alors on a eu des sponsors qui nous ont beaucoup aidés. Néanmoins, on a quand même dû acheter beaucoup de choses. D'autant plus qu'en fait, un des objectifs, c'est d'arriver à avoir de la variété dans ce que tu manges.
Ouais.
Parce qu'au-delà de l'apport calorique, etc., c'est quand même le seul espace de confort que tu peux avoir, quelque part. C'est d'avoir des trucs qui te font quand même plaisir. Et le piège, c'est finalement de pas prendre de choses assez variées, et au bout de quelques jours, en fait, t'en as marre de manger toujours la même chose. Et ça, tu vois, on l'a eu par exemple sur une marque de bar en particulier qu'on avait goûté, qu'on trouvait super bonne. Ils nous ont aidés et donc on a pris tout ce qu'il y avait dans leur gamme, donc une gamme large, mais en fait ça reste la même marque. Donc finalement, les bars se ressemblent toutes. Et au bout d'un moment, on en pouvait plus. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'amener de la variété, que ce soit sur les lyophilisés, les bars. Vraiment le point crucial sur le côté confort.
Mais j'ai aucun mal à le croire parce que déjà sur les courses de trail, les coureurs disent qu'au bout de 10 ans de course, ils en ont marre de ce qu'ils ont amené comme ration. Alors, je veux bien croire qu'au bout de 47 jours, à manger les mêmes barres, les mêmes trucs lyophilisés, les mêmes bouteilles on met de l'eau dedans et on remue et ça fait une espèce de repas, je veux bien croire qu'au bout d'un moment, tu sois content de trouver un truc un peu différent et que bah il n'y a pas tant de variété que ça finalement quand tu... Sur un jour de temps en temps, oui, mais sur 47 jours, la variété, c'est pas si simple que ça, quoi.
Alors sur les lyophilisés, je suis quand même agréablement surpris. Aujourd'hui, il y a un éventail quand même très large et de marques et de cartes dans chacune des marques. Moi, je me souviens des lyophilisés que je bouffais gamin quand je partais avec mon père en montagne. C'était absolument infâme, quoi. Et aujourd'hui, vraiment, enfin, c'est bluffant. Il y a de la texture, il y a du goût, il y a de la variété. Vraiment, les lyophilisés, c'était une bonne surprise. Et sur la fin, on a même inversé, enfin, on a même remplacé certaines rations de bar avec du lyophilisé qu'on avait pris en rab. Parce que finalement on trouvait plus de plaisir à manger ça que à tourner sur les éternelles barres de chocolat dont je citerai pas le nom et qui au bout d'un moment t'en peux plus quoi.
Tiens, on va dire par curiosité, hein, le petit plat qui vous est plaisir en lyophilisé, c'est quoi au milieu de l'Atlantique, comme ça?
Alors moi vraiment mon préféré c'était une recette de pâte crémeuse au saumon
Waouh!
qui était vraiment vraiment bluffante, très très bonne.
D'accord. Ouais, alors, là, tu vois, il faut de la
Il faut de
flotte.
l'eau, tout à fait.
Comment vous la trouvez la flotte là sur le... Vous avez des systèmes pour purifier l'eau de mer, enfin de l'océan, comment ça marche?
Ouais, alors on a à bord donc un dessalinisateur automatique qui donc va prendre l'eau de mer, enlever le sel et te la restituer. On a également un dessalinisateur manuel au cas où on a un problème avec l'automatique. Et ensuite, on a embarqué également 150 litres d'eau en bouteille qui nous servent de ballast pour lester le bateau et éviter qu'il se retourne trop facilement et qui servent de ration de secours au cas où on a un problème avec les dessalinisateurs. Et finalement, quand on regarde comment s'est passée la traversée, on a réussi à utiliser le dessalinisateur automatique à peu près un tiers du temps. On a dessalé à la main un tiers du temps. Donc t'essayes de jongler avec ça. Alors les dessalinisateurs marchent très très bien. Le truc c'est que ça reste quand même de l'eau qui garde un petit goût salé malgré tout et qui prend un peu un goût de plastique au contact des membranes. Donc qui voilà est pas hyper agréable. Donc on rajoutait quelques sachets de goût histoire d'enlever un peu ce mauvais goût dans l'eau dessalée. Et pour le coup, quand tu ouvres une bouteille d'eau minérale qui vient de n'importe où en France et que tu goûtes ça après, mais c'est tellement bon, c'est incroyable
Ah
le
ouais,
goût que ça a.
c'est l'eau que d'habitude trouve qu'il n'y a pas de goût, un mauvais goût, finalement, d'un coup, c'est le bonheur, quoi.
Ah, tu te fais des cocktails, tu les mélanges entre elles, c'est la folie.
Ouais, c'est drôle quand même, hein, vos soirées du vendredi soir. Tiens, on fait un cocktail d'eau ce soir sur le bateau, ça.
Exactement, exactement.
Je me dis, tu vois, on a parlé quand même de la monotonie enfin, mentale que tu dois avoir parce que, en plus, il y a un moment donné, tu vois, t'as que de l'eau autour de toi. Tu vois rien d'autre?
Non.
À part des poissons, enfin, qui volent et des bateaux peut-être qui passent au large, je sais pas ce que tu vois finalement.
Tu vois pas grand-chose, hein. Des bateaux, très très peu. Tu en vois à l'approche des côtes, mais en pleine mer, en fait, c'est tellement grand que même s'ils sont à 50 km, tu les vois pas. On a croisé seulement deux voiliers sur la traversée, c'est tout. Des poissons, alors oui, tu vois des poissons volants tout le temps, et des mammifères, malheureusement, on en a vu assez peu. Ça, c'était quand même une mauvaise surprise, hein. On pensait en voir beaucoup plus. Et sinon, bah, tu vois de la houle, de l'écume et des nuages, quoi, globalement. Donc effectivement, ce côté monotone vient ajouter à toutes les autres choses qui bah, sont pas super et qu'il faut arriver à gérer. Mais malgré tout, c'est rien à comparer de la nuit, de la nuit noire,
Ouais.
la nuit sans lune et avec des nuages, où tu ne vois absolument rien. et que autour de toi il y a une houle de 8 mètres et que tu espères mettre tes pelles dans l'eau à chaque coup de rame, mais tu sais pas en fait si tu as trouvé de l'eau, de l'air, si tu t'en sais rien. Et là c'est intense.
Là, tu vois, moi je suis en train de me dire quand même que. Enfin, il y a de quoi avoir les pétoches.
Il y a de quoi. Alors, c'est assez rigolo, mais on a fait le même constat à l'arrivée avec Guillaume de se dire à aucun moment on a eu peur. Aucun moment. Et vraiment, je dis pas ça pour sous un angle d'ego ou quoi que ce soit. C'est on s'est préparé pendant plus de 3 ans. On a fait des heures et des heures sur notre bateau. On le connaissait. On avait complètement confiance dans le bateau, on se sentait vraiment en sécurité dessus et on avait un plan pour toutes les situations qui pouvaient se passer. On a toujours été hyper vigilants sur les aspects sécurité. Il y avait vraiment une grande confiance entre nous et donc on s'est jamais senti en danger. On s'était fait la promesse, voilà, qu'on serait vraiment très très vigilants. Et on l'a été tout au long de l'aventure. Donc c'est impressionnant, mais en fait on apprend à s'accommoder de l'environnement, on apprend à s'accommoder des variations de la météo, de la mer. Et puis une fois qu'on accepte que bah, de toute façon c'est toujours la mer et la météo qui décidera à la fin de ce qui se passe, eh ben on s'adapte.
C'est une manière effectivement de voir les choses. De toute façon, c'est tellement plus grand que toi que de toute façon, tu à part ramer. Et j'ai envie de dire aussi, moi j'ai une question quand même qui se pose sur la partie repos. On arrive à dormir comme ça là, parce que déjà, c'est que par tranche de moins de 2 heures, forcément.
Ouais, c'est très très compliqué le repos. Donc effectivement, tu rames 2 heures et tu as 2 heures de pause. Alors sur ces 2 heures de pause, en fait, il faut vraiment s'imaginer sur le bateau en train de ramer. À partir du moment où tu lâches les rames, déjà, il faut les mettre sur le pont pour les sécuriser. Il faut enlever tes pieds des straps. Enfin, des trucs qui prennent 3 secondes à chaque fois. Mais quand tu mets tout bout à bout, tu as plein de petites actions comme ça. Ton collègue vient te remplacer. Toi, à ce moment-là, bah, il faut que tu déplaces tes longes de sécurité, que tu te déshabilles un peu. Peut-être que tu manges un morceau, que tu fasses un point sur la carto, que tu communiques peut-être un peu avec la terre. Bref, tu mets tout ça bout à bout. Tu mets la même chose avant de reprendre ton quart de rame. T'as déjà perdu entre une demi-heure et 45 minutes. Donc il te reste au maximum 1 heure et quart de repos. Sur le bateau, donc on est parti fin novembre, mais à une latitude assez basse, puisqu'on part des Canaries, donc tu vois, au niveau du Maroc, donc il fait très chaud
Il fait
en
chaud, ouais.
fait. Et donc en gros, jusqu'à 2 heures du matin, il fait trop chaud pour dormir dans la cabine. C'est juste pas possible. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la cabine, le thermomètre, il indique 39 degrés. Et que bah, tu as envie d'ouvrir la fenêtre pour aérer, mais si tu ouvres, tu es à peu près certain que tu as des paquets de mer qui rentrent dans la cabine. Et ça, tu veux pas. Donc tu fais l'erreur quand même quelques fois. Et puis une fois que la cabine est franchement trempée, t'en as marre, tu respectes la règle de on ferme tout. Donc en journée, en fait, tu passes ton temps à être un peu dans la cabine, un peu dehors, re-rentrer, ressortir. Donc tu te reposes pas. Et seulement à partir de 2 heures du matin, à peu près, il commence à faire un peu plus frais. Et là, tu arrives du coup à faire à peu près 3 fois 1 heure de sommeil, jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau. Donc, en moyenne, tu vas dormir voilà, entre 3 et 4 heures les meilleurs jours, et ça pendant 47 jours.
Eh ben, moi, tu vois, je suis en train de regarder le site en même temps, je regarde le compte Instagram, je vois ce petit bateau, là, et compagnie comme ça, qui paraît vraiment tellement minuscule quand on le voit, dessus. On se dit quand même, c'est dingue, cette histoire-là. Et en même temps, vous faites vieux, enfin, il y a une photo, vous faites, alors, enfin, je sais pas si c'était pas pendant la traversée ou quoi, mais vous avez une photo sur le site. Ça fait un peu, avec le chapeau, lunettes, ça fait un peu aventurier qui part, un peu pirate et tout, là, j'ai trouvé, ça faisait,
Ah, ça, c'est la magie du marketing, ça.
C'est ça quoi.
Non, mais en vrai, c'est vrai que dans les moments super durs, tu penses à autre chose qu'à sortir ton appareil photo pour immortaliser ça. Il y a vraiment une part de ça. Après, voilà, c'est aussi le défi, c'est d'arriver à trouver du confort dans l'inconfort et trouver ces moments où, bah, où ça se passe quand même bien, où tu es content d'être là. tout ça. Et finalement, l'environnement global est tellement inconfortable que, bah, tiens, le rayon de soleil à un moment donné qui arrive sur le pont, bah, il fait plaisir. Que, tiens, le sachet lyophilisé chez Icon Carnet que tu n'avais pas eu depuis 3 jours, il fait plaisir, etc., etc.
Je regarde les photos, hein, toujours, hein. C'est vrai qu'en plus vous avez prétendu communiquer quand même, vous avez fait pas mal de communication autour, etc. Parce que bon, il faut communiquer sur un tel projet, quoi.
Ouais. Oui, il faut communiquer, et moi, au travers de ce projet, mais de tous les autres que j'ai fait avant, j'ai vraiment toujours à cœur de partager ça, parce que j'ai toujours voulu montrer que, en fait, c'est possible de réaliser des projets comme ça. Et vraiment, à chaque fois, j'essaie de le montrer en disant, bah voilà, la mer, je connaissais pas, bah, je peux quand même traverser l'océan à la rame. Et donc, effectivement, on a essayé de communiquer. On a réussi à le faire quasiment quotidiennement avec le soutien de ma femme qui était notre relais à terre et qui tous les jours recevait nos enregistrements audio, qui les mettait en forme avec un petit bout de vidéo, une petite photo, le partageait, et qui de l'autre côté nous renvoyait aussi tous les jours les commentaires qu'il pouvait y avoir sur Insta, sur Facebook, etc., qui nous envoyait ça par mail. Et vraiment, c'était à chaque fois qu'on ouvrait le mail, c'était un boost énorme pour le moral de sentir qu'il y avait du monde derrière, que ça inspirait, que des gens partageaient et vivaient vraiment le truc avec nous. Et on a été bluffés du nombre de soutiens qu'on a reçus, qui se sont manifestés pendant. Et aujourd'hui qu'on est rentré, je me rends compte qu'en fait, derrière une personne qui s'est manifestée, en fait, il y en a 10 qui ont suivi, mais qui n'ont rien dit. Mmh. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment surpris. Je pensais pas que ça mobiliserait autant de monde. Donc, j'en suis très content. Et je sais que ça a été partagé, des fois, dans des classes d'école. Et voilà, je me dis, si ça peut faire rêver et déclencher un passage à l'action, pas forcément sur de la rame océanique, mais sur n'importe quel projet qu'on peut tous avoir, bah c'est génial.
Je continue à regarder un petit peu là sur le site en même temps, parce que c'est vrai que moi je trouve ça fou quand même de se dire on part comme ça. Et tu disais que ta femme faisait le relais à terre, mais le jour où tu lui as dit à ta femme, coucou chérie, là on prévoit dans 1000 jours environ de partir ramer à travers l'Atlantique, elle te dit quoi?
Très bonne question. Alors, je ne me souviens pas exactement de ces mots. Ce que je sais, c'est qu'elle m'a pas dit non.
Ah, donc c'était plutôt bon signe.
Donc c'est plutôt bon signe. Non, j'ai la chance incroyable d'avoir une femme qui me soutient et qui me comprend. Et quand je lui dis tiens, j'ai vu ça, j'ai envie de le faire, en fait, ça tombe pas comme ça. Ça tombe dans un contexte où ça fait déjà 3 ans que tous les ans, je me lance dans un projet. Alors pas aussi gros que celui-là, mais voilà, où je pars 2 semaines, 3 semaines. Donc, voilà, forcément, ça surprend. Mais elle m'a soutenu et on s'est organisé pendant ces 1200 jours pour que ça se passe bien pour tout le monde, pour elle, pour nos enfants, pour moi sur le bateau. Et ça fait partie de voilà, c'est ces 1270 jours où il y a tellement de choses à préparer, tellement.
C'est une question que je me pose comme ça. Est-ce qu'on voit des mirages ou des choses comme ça? Est-ce que des fois t'as l'impression de voir la Terre alors que t'es en plein milieu de la mer et tout là comme ça que tu...
Non, on en a pas vu. On en a pas eu. Tout comme on n'a pas eu d'hallucinations ou de choses comme ça, ou pas qu'on ait noté en tout cas. Par contre, on a vu. Alors c'est pas un mirage, mais ça m'y fait penser. Moi, j'ai vu mon premier arc-en-ciel de nuit. Je ne savais pas que c'était possible.
Ah ouais. Bah écoute, moi
non plus. Et j'ai mis quelques minutes à accepter que c'était ça, quoi. Et effectivement, sur la première semaine, je crois, on a vu un soir de pleine lune, un arc-en-ciel de nuit. C'est incroyable. C'est vraiment très très beau.
Là, t'as réveillé Guilhem, tu te dis, putain, attends, il y a un truc, il y a un arc-en-ciel. C'est fou.
C'est ça. Et comme c'était au début de la traversée, il m'en a pas trop voulu.
Ouais, puis t'as dit, allez, tais-toi et rame, et puis voilà, on est reparti, quoi.
C'est à peu près ça.
Bon, alors on a dit quand même c'était pas la première aventure, parce que, et c'est vrai que je mettrai le lien vers le site, mais en fait il y a plein d'aventures, et moi ce qui m'a interpellé c'est en fait 2015, les 12 micro-aventures, et notamment un truc l'idée de partir le soir et d'aller le lendemain au boulot.
Ouais, c'est en fait c'est un peu les micro-aventures qui ont lancé les défis qui ont suivi. En fait, ça remonte à 2014-2015. Où moi c'est une époque où je sors de ma première aventure entrepreneuriale et où pendant 5 ans j'ai bossé jour et nuit et où je décide que ben non là j'ai envie de me remettre à mes passions d'adolescent où voilà j'ai grandi dans le Massif Central où je passais ma vie à skier à faire du vélo etc. Et donc je me dis bah je veux retourner un peu à ça et je découvre avec mon beau-frère à l'époque qu'il y a un Anglais qui s'appelle Alastair Humphrey qui a été nommé par le National Geographic comme l'aventurier de l'année pour le concept de micro-aventure. Et donc lui, son idée au départ, c'est de dire en fait l'aventure, c'est pas juste des gars bodybuildés qui partent à l'autre bout du monde faire des trucs pendant des mois, c'est juste sortir de cette fameuse zone de confort qu'on utilise à toutes les sauces. Et donc c'est peut-être juste ce soir, plutôt que de rentrer à la maison après le bureau, c'est d'aller dormir à la Belle Étoile dans la colline d'à côté et de retourner travailler le lendemain matin. Et en découvrant ça, on s'est dit, mais c'est absolument génial ce concept. Tiens, donnons-nous un challenge. On va faire une micro-aventure par mois et on va communiquer dessus, toujours dans cette idée de partageons, essayons d'embarquer des gens avec nous dans cette aventure-là. Et donc, c'est parti de là. Et pendant un an, on a imaginé tout un tas de micro-aventures. Alors, comme celle que je citais, on va dormir ce soir à la Belle Étoile. Mais on a aussi fait des choses comme, tiens, chiche, qu'on parcourt toutes les rues du centre-ville d'Aix-en-Provence à pied en une nuit. Ou, tiens, chiche, qu'on fait Paris-Londres à vélo en 24 heures. Voilà, des choses comme ça qui montrent que, oui, on peut ajouter un peu de piment, un peu de fun dans son quotidien de manière très, très simple, sans beaucoup de matériel, sans beaucoup de compétences physiques ou logistiques, tout ça est possible.
Oui, alors c'est drôle. Alors, en plus, Alistair Humphrey a aussi traversé l'Atlantique à la rame. Hein?
Ouais, tout à fait. Tout
Donc,
à fait. Dans le cadre de la course que j'évoquais tout à l'heure.
ouais, donc j'ai vu ça. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ce que tu disais, ça nous ramène sur cette période de confinement où on est bloqué dans cette zone de très réduite, hein, alors qui, selon les confinements, a changé entre les 1, les 10, les 30 km, elle a changé, mais que finalement, dans cette zone-là, quand on la regarde bien, on peut faire un chemin, on peut partir à l'aventure. Alors, on est limité sur les horaires de nuit, en tout cas. Hein, je pars le soir du boulot, je rentre le lendemain, je retourne le lendemain matin au boulot en ayant dormi dehors. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Par contre, sur un week-end, on pourrait partir le matin à l'aventure, aller découvrir des choses, finalement, sans s'évader très loin, quoi.
Bien sûr, bien sûr. La toute première micro-aventure qu'on a faite a été très simple. C'était de se dire, près d'Aix-en-Provence, là où on habite, il y a deux barrages qui sont reliés donc par une petite rivière qui forme un canyon. Et on s'est dit, allez, on traverse ce canyon en suivant le sud parfaitement. On suit une ligne droite, quoi qu'il arrive. S'il y a un caillou, on monte dessus. S'il y a des buissons, on passe au travers. En fait, cette expérience, elle nous sort vraiment de ce qu'on fait d'habitude. Et ça, je veux dire, il faut 2 heures pour le faire et c'est plié, quoi. C'est
Oui.
juste oser de faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire.
Ça s'est passé comment? Il a fallu monter sur des arbres, c'est
Alors, on est rentré avec pas mal de traces sur les jambes, mais on a bien rigolé.
Non, parce que ça paraît juste dingue en fait comme idée. Après, on se dit, ouais, c'est génial, mais moi j'aurais pas pensé. Mais on se dit, c'est vrai qu'au juste dessus le chemin, on part tout droit, et puis bon, on va voir comment on arrive à le faire. Mais elle vient, enfin, comment t'as l'idée?
Je saurais pas dire comment est venue l'idée. Moi, j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup ça professionnellement, le process créatif. Et il y a un truc de base dans le process créatif, c'est que les idées, c'est comme la loi de l'énergie. L'énergie, elle se perd pas, elle fait que se transformer. Et les idées, c'est pareil en fait. T'as une idée A, une idée B, et quand tu les mets ensemble, pouf, ça donne l'idée C, quoi. Et en fait, quasiment, quand je regarde derrière moi, je vois que toutes les aventures dans lesquelles je me suis lancé, en fait elles sont nées comme ça, de se dire tiens je viens de faire ci, il se passe ça autour de moi, tiens si je mélange les deux, ça donne une nouvelle aventure. Le premier challenge que j'ai fait solo, c'était la traversée de la France en triathlon. C'est vraiment né de ça en fait, de se dire tiens un jour je me suis dit que la France pourrait se traverser en courant. J'ai envie de faire ce projet, mais je me dis que c'est trop long de faire ça en courant, ça va me prendre des semaines et j'ai pas le temps. Donc, comment je peux l'accélérer? Bah tiens, en mettant du vélo. Bah si je cours et que je fais du vélo, si je rajoute la nage, je fais un triathlon. Bah allez, vendu, on part là-dessus. Et voilà, donc j'aime bien ce concept de mélanger les idées pour en faire des nouvelles. Et j'ai l'impression que c'est souvent comme ça que naissent mes idées de projet.
Oui, alors pour ceux qui se posent la question quand même de savoir comment on traverse la France en triathlon, donc parti du Finistère pour arriver jusqu'à la frontière italienne.
C'est ça, exactement. L'idée, c'était de prendre la plus longue diagonale terrestre possible. Donc c'est une ligne qui part de Porspoder près de Brest et qui termine à Menton, qui fait 1083 km. J'ai divisé ces 1083 km suivant les ratios de l'Ironman. Et j'ai simplement modifié l'ordre des disciplines pour des questions logistiques. Donc j'ai commencé par le vélo, donc jusqu'au niveau de Gap. Là, j'ai abandonné le vélo et je suis passé à la course à pied jusqu'à Nice, dans une région en plus assez montagneuse. Et ensuite, j'ai nagé de Nice jusqu'à Menton.
Oui,
Voilà, je les ai coupés comme ça.
Ce qui fait 22 km de nage, hein, ce qui paraît
C'est
pas
ça.
beaucoup sur la totalité des choses, mais qui a essayé de nager 2-3 km, c'est que 22 km de nage, hein.
Ouais, et clairement, c'était pour moi ce qui me faisait le plus peur. Et finalement, c'est la course qui a été clairement le plus dur sur les trois disciplines. Et la nage, c'est au contraire plutôt très très bien passé.
Oui, alors, je leur dis, ça fait 1165 km de vélo, 235 km de course à pied, finalement, et 22 km de
Ouais.
nage. En combien de temps?
J'ai mis 15 jours pour le faire. Alors, ce qui effectivement n'est pas un temps de performance. Je l'ai fait en autonomie. Et c'est un peu l'idée de toutes mes aventures. Alors, l'autonomie en France, c'est relatif, hein, parce qu'on peut acheter à manger où on veut, c'est assez simple. Mais bon, malgré tout, en course à pied, il faut quand même trimballer un sac avec un duvet, avec un tapis de sol, un peu d'eau, et donc tu as vite 6-7 kilos sur le dos, ce qui est pas hyper confortable, surtout quand tu as du dénivelé. Donc, je suis parti, j'avais même pas de vélo de route à l'époque, je suis parti avec un VTC, et des sacoches dessus, quoi. Donc clairement, il y a un record à aller chercher là, à battre en tout cas. Mais voilà, c'est plus la philosophie du truc qui m'a attiré. Et je suis assez fier de ce temps, même s'il est largement optimisable, je pense.
Oui, mais alors tu sais ce que j'adore dans ce principe, ça veut dire que finalement on peut se lancer dans une aventure comme ça, en autonomie, comme tu dis finalement, parce que c'est vrai que tu peux t'arrêter dans des supérettes, etc. J'ai vu des coureurs, c'est Lucas Papi que j'ai vu, il avait fait les Canaries ou la Transcanaria tout seul en autonomie, en disant moi je porte rien, je m'arrête juste dans les supérettes, dans les restaurants pour acheter à manger au fur et à mesure. Hein. Alors bon là c'est un petit peu... Je sais pas ce que tu as mangé pendant ces 15 jours finalement, parce que si tu arrives à retrouver des choses qui sont vraiment efficaces énergétiquement, j'ai envie de dire.
Bah, j'ai pas cherché à être efficace énergétiquement. J'avoue que là, je mangeais, j'avais faim, j'essayais de voir qu'est-ce qui me faisait envie et j'allais là-dessus. Une fois de plus, je serais parti dans une logique de performance, j'aurais abordé le sujet complètement différemment et probablement, enfin, à coup sûr même, j'aurais travaillé le sujet nutrition de manière très spécifique.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, c'est... Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans cette philosophie-là, c'est que ça rend finalement cette aventure plus accessible, en tout cas, moi je trouve, et il fait moins peur, et c'est ça qui était intéressant aussi dans ces concepts-là, c'est de se dire que on est toujours ceux qui veulent battre les temps, qui disent je vais faire traverser la France le plus vite possible, etc., qui sont bien sûr dans une logique, mais on est plein à pas être dans la logique en se disant bah, finalement je cherche aussi une aventure qui a peut-être un sens, ou en tout cas qui... Moi, j'ai l'impression que ça t'amuse, quoi.
Ouais, mais exactement. En fait, c'est tout à fait ça. T'as tout à fait raison. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime pas utiliser le mot sport pour qualifier ce que je fais, parce que derrière sport, chacun va avoir sa définition. Pour certains, ça va être en stade. Pour d'autres, ça va être à compétition. Moi, en fait, c'est ça. Je vais m'amuser. Ouais. Il y a un projet qui me tente. Je vais m'amuser. Et effectivement, t'as raison dans ce que tu dis. En fait, on a tous nos schémas de pensée. Et ça, je l'ai beaucoup vu sur quand j'ai préparé mon Tour de France à vélo. En fait, j'ai fini mon triathlon. Je suis arrivé chez moi. C'était le moment du Tour de France. Et puis pareil, les idées se sont connectées. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, le Tour de France ne fait pas le Tour de France. C'est dommage. Il le faisait au début, il le fait plus. Et je me suis dit, bah allez, chiche. Je me trouve un vélo de route et l'année prochaine, je fais le vrai Tour de France. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, ça doit être faisable en 20 jours. Ça fait 5000 km, je divise par 20, ça fait 250 km par jour, ça doit être possible. Et quand j'ai commencé à en parler à des vrais cyclistes, en fait, spontanément, la réflexion, c'était, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux le faire 2, 3 jours, mais pas plus. Même sur le Tour de France, ils ont des jours de repos, des médecins, des machins, c'est pas possible. Mais parce qu'en fait, dans leur schéma de pensée, quand je pars rouler, c'est pour rouler à 30, 35 à l'heure, pendant 4 heures, et rentrer chez moi. Alors en fait, moi je déconstruis le problème différemment en me disant, je dois faire 250 km par jour. La journée fait 24 heures. Je vais prendre 8 heures de repos, il me reste 16 heures. Donc je divise 250 par 16 et finalement ça me fait une vitesse moyenne qui est extrêmement basse. Et donc le défi, il est plus dans un côté cycliste, il est dans le côté mental de résister à être en selle pendant 16 heures à une vitesse basse. Et je pars sur mon challenge et finalement je le boucle en 21 jours. Et c'est vraiment cette philosophie que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure sur la Transat, ce qui m'a passionné dans la phase de préparation, c'est justement la déconstruction du problème pour aller chercher ce que ça demande vraiment de rendre ce projet possible.
T'es ingénieur de base, non?
Ouais.
Ou ça sent, c'est non, mais après, c'est ça la force des ingénieurs, c'est-à-dire la capacité à prendre quelque chose qui semble très complexe et qui est complexe parce qu'il y a plein de trucs qui s'enchevêtrent et finalement trouver l'enchaînement pour que ça devienne réalité.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'avais jamais fait ce lien, mais il est génial, je trouve.
Ouais, parce que finalement tu te dis bon, si je mets ce rouage là, ce rouage là, ce rouage là et qu'on met un petit peu de dynamique dans je sais pas quoi, bon bah hop, on connecte et enfin toi ça a l'air de marcher. Je sais pas, tu enfin moi je regarde les trucs comme ça, tu vois, je me dis mais attends, y a pas un moment donné tu t'es dit non mais ça j'arrive pas à le déconstruire de manière à... Ça, j'y arriverai pas. J'ai pas encore trouvé l'astuce, quoi.
Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Mais bon, peut-être que je les ai oubliés, ces situations-là.
Peut-être. Alors, parce qu'après, bon, les gens iront voir ton site. Il y a d'autres aventures hein, et tout. Puis il y a des aventures. On parlait des aventures du coin de la rue, mais il y a bon, l'Atlantique, mais il y a aussi l'Amérique du Sud.
Oui, tout à fait. C'est une année de voyage à vélo en famille en 2016 où on est parti donc avec ma femme et nos deux petites filles qui à l'époque avaient 3 et 5 ans. Avec ma femme, on s'était toujours dit un jour on fera un grand voyage. Et puis on a eu notre première fille, notre deuxième, et puis un jour on s'est réveillé en se disant mais c'est pas possible, elles sont déjà aussi grandes, il faut qu'on fasse quelque chose pour en profiter maintenant. Et donc l'idée de partir à vélo est venue un peu naturellement, je ne saurais pas expliquer comment. On avait pareil jamais fait de vélo en particulier, enfin, un peu pour aller travailler, tout ça, mais c'est tout. Et puis on avait fait un petit voyage au Mexique quand on était étudiant, on avait adoré ce pays et on rêvait de Patagonie. Et donc en quelques heures, l'idée est venue de se dire bah, allez, on part du Mexique, direction la Patagonie pendant un an à vélo en famille. Et donc on est parti comme ça. Le plan ne s'est pas déroulé comme prévu, mais en tout cas on a traversé effectivement l'Amérique centrale, puis après on a fait un bout d'Europe et on a fini par traverser la Thaïlande à vélo.
Ouais, avec finalement des vélos, des remorques, dans lequel il y a
Tout
les
à
enfants,
fait.
quoi, c'est ça? Enfin.
Tout à fait. Un gros challenge, bon, sous plein d'aspects, mais physique aussi, parce que bah, deux enfants, plus une remorque, plus les bagages, et le vélo, bah, déjà, ça fait 100 kilos. Voilà, et tu t'assois sur la selle et tu pédales. Donc c'est pour ça aujourd'hui, quand je change mon vélo de route, bon, qu'il fasse 8 kilos, 9 kilos, bon, c'est pas très regardant.
Ouais, finalement, ce petit kilo de d'écart, il change pas grand-chose. Alors que, on peut se dire quand même que ce que tu mets dans les sacoches, lui, par contre, tu dois le calculer différemment.
Ah bah tu le calcules tout au millimètre, surtout que en fait tu te retrouves à deux vélos avec leur sacoche, mais pour quatre personnes. Parce que tu as deux enfants qui eux ont pas leur sacoche. Et que suivant les zones où tu es, et bah, il faut peut-être emmener des réserves d'eau pour quatre personnes pour toute la journée, des réserves de nourriture pour quelques jours, qu'il faut être autonome et pour le couchage et pour tout. Hein. Donc ouais, il faut pouvoir parer à toute éventualité avec un minimum de choses. donc une approche extrêmement minimaliste du voyage. Et puis c'est possible, pareil, on déconstruit le sujet et puis on voit comment tout ça rentre.
Ouais, mais si tu dis à tes gamins, on part 60 jours en voyage en mélangeant que des bars et des produits lyophilisés, je sais pas s'ils sont d'accord, non?
Ah bah ça se prépare, on l'annonce pas de manière abrupte comme ça. Mais en fait on sous-estime vraiment notre capacité d'adaptation et même notre capacité tout court à faire des choses. Enfin, c'est juste incroyable en fait ce que le corps humain est capable de faire, ce que le mental est capable d'accepter. Mais on est tellement plus habitué à ça, on baigne tellement dans du confort en permanence sous tous les aspects que en fait on se rend pas compte des super pouvoirs qu'on a.
Oui, et j'ai l'impression que c'est un peu, finalement, un peu une sorte de mission. Enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, si c'est un peu large, mais quand on regarde ton site, quand on regarde tes activités, ce que tu fais autour, on a l'impression que c'est vraiment le message que tu as envie de faire passer, en fait, de dire, on peut le faire.
Ouais, on peut le faire et j'aime bien l'idée, voilà, de ce qu'il y a derrière le minimalisme, le retour à un essentiel, à des choses qui font sens. Et c'est pas du tout, enfin, je parle pas du tout d'un retour en arrière, de s'isoler au fond d'une grotte. C'est pas du tout l'idée, mais de réaliser qu'en fait, on peut trouver de la joie, du bonheur dans le dépassement de soi, mais chacun à son niveau. Une fois de plus, on n'est pas obligé de traverser l'Atlantique à la rame. Pour se sentir grandir en fait. On a tous notre challenge, notre défi, mais vraiment il faut juste se dire qu'en fait il faut pas s'arrêter aux peurs qui viennent spontanément, faut accepter de les laisser passer, de prendre le temps de se poser les vraies questions de ce qu'il y a derrière et surtout de faire le premier pas. C'est le premier pas qui est le plus compliqué. Après, le reste, ça déroule. Quand on a décidé de partir en voyage à vélo, le plus dur, ça a été de booker le billet d'avion. Puis une fois qu'il est réservé, tout le reste y suit. Le premier coup de rame aux Canaries pour sortir du port, il a été terrible, mais terrible. Enfin, même pas monter sur le bateau, quitter le quai, ça a été terrible. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc, c'est toujours ce premier pas qui est extrêmement compliqué et il faut arriver à vraiment trouver la première étape la plus simple possible pour la rendre vraiment activable et réalisable. Et ensuite, le reste derrière, ça suit. Mais voilà, il faut arriver à déconstruire, trouver cette première étape, démarrer et le reste, ça suit derrière.
Ouais. Moi je suis vraiment épaté, tu vois, je regarde et tout, la grande sortie. Alors j'adore le nom, en plus tu dis allez je pars faire une grande sortie, mais c'est le Tour de France quoi.
C'est une grande sortie.
c'est vraiment une très très grande sortie quoi, sur le truc comme ça. Bien sûr, quand on regarde comme ça, on a envie de se dire, bon, là t'es rentré il y a 3 mois, c'est ça, hein, t'as dit.
Ouais. Ouais,
comment tu reviens à la vie normale. Je sais pas si on peut appeler ça la vie normale d'ailleurs.
J'aime pas trop la vie normale ou concept de réalité parce qu'en fait tout est réel. Voilà, on a juste des réalités différentes les uns les autres. Moi, je reviens hyper enthousiaste, hyper content et excité de la suite. Tous ces projets, je les vois vraiment comme des étapes, les unes après les autres. Et y a toujours ce fil rouge de se dire bah, après ça il y aura autre chose, je vais aller apprendre quelque chose de nouveau, découvrir une nouvelle discipline, un nouveau territoire, challenge, etc. Donc le retour se passe vraiment très très bien. Je pense que les motivations qu'on met au départ dans le projet conditionnent énormément le retour. Moi, je me souviens avoir croisé des gens sur la route en voyage à vélo, qui étaient soit à vélo, soit à pied, qui voilà, ont décidé à un moment de leur vie de tout plaquer, partir à l'autre bout du monde, voyager, et qui ont des retours dramatiques. Dramatique parce que ils ont fui un pays qu'ils aimaient pas, parce que la France elle est comme ci, elle est comme ça, et puis en fait à un moment ils rentrent et puis ils sont pas prêts quoi, ils sont pas prêts et ils vivent dans le passé et ils arrivent pas à repartir. Donc je pense que ça tient beaucoup aux motivations qu'on met au départ dedans.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une parce que souvent on voit ceux qui partent comme ça en disant bon, je reviendrai pas de toute façon, et quand ils sont obligés de revenir bon bah voilà, là c'est vraiment le retour à une réalité qu'ils ont fui, alors que toi finalement c'est de te dire bon ben bah, là j'ai une parenthèse, on va partir en voyage pendant tant de temps, à faire tel truc etc, et puis Et en même temps, je suis sûr, je ne te demande pas de le donner, mais je suis sûr que tu sais, que tu as une idée de ce que tu as envie de faire ensuite.
Bah, là, tu vois, concrètement, en termes de challenge sportif, j'ai pas d'idée. Autant sur les autres projets, sur la fin du projet, je sentais arriver les idées pour le suivant. Autant là, je crois qu'il a été tellement intense en termes de préparation, en termes de traversée en tant que telle. Tu vois, ces 3 ans de travail qui ont impacté vie pro, vie familiale, budget, enfin, tout un tas de choses, que là, aujourd'hui, il y a une envie, voilà, de se poser, de prendre le temps de digérer ce qui s'est passé. À côté de ça, moi j'ai un vrai challenge professionnel aussi aujourd'hui sur lequel je veux me consacrer. Donc je sais qu'il y aura de nouveaux challenges sportifs qui viendront, mais voilà, je me mets pas de date, je me mets pas encore d'objectif ni quoi que ce soit. Ça viendra quand ça viendra. Et puis voilà, pour le moment, je profite de ce qui s'est passé et je pense que je mettrai encore quelques semaines, voire quelques mois, à en tirer tous les enseignements.
Oui, et puis là, tu sais, il y a des gens qui sont en train de se dire, mais c'est quoi son boulot en fait, en vrai? Parce que est-ce qu'il arrive à vivre de ça? Est-ce qu'il a des sponsors? Est-ce qu'après il fait des conférences? En fait, c'est même pas ton boulot de partir à l'aventure.
Non, c'est pas mon boulot. En fait, ça fait 5 ans maintenant que j'ai construit cet équilibre entre d'un côté réaliser des challenges sportifs, de l'autre côté avoir une famille et un travail. Et donc, ça a mis du temps à se construire, mais. Donc aujourd'hui, alors oui, je vais donner des conférences, je vais partager ces aventures, mais vraiment parce que ça me fait plaisir de le faire. Mais par contre, voilà, je ne gagne pas d'argent avec ça, en tout cas pas suffisamment pour en vivre. Et surtout, en fait, tout comme l'aventure me passionne sur ces terrains sportifs, l'aventure tout court, en fait, me passionne. Et comme tu l'as deviné, voilà, moi je suis ingénieur de formation, mais dès que je suis arrivé dans le monde du travail, bah, j'ai co-créé une entreprise dès ma sortie d'école, une aventure extraordinaire. Et puis après ça, je me suis lancé dans le conseil, toujours dans l'idée d'aller explorer différents secteurs d'activité, différentes entreprises, rencontrer des gens différents. Et ça m'a toujours beaucoup amusé. Alors oui, j'ai des sponsors qui me soutiennent sur ces dernières aventures, essentiellement sur des sujets matériels, sur des dons de matériel. Il y a aussi des sponsors financiers, mais voilà, qui couvrent tout juste ce qu'il faut pour le projet, mais pas au-delà. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que, donc comme je te disais tout à l'heure, l'objectif au début de la traversée, c'était de partir en 2019, fin 2019. Et donc moi, à cette époque, j'étais encore consultant en stratégie à mon compte. Et j'avais une idée d'une entreprise autour du sport qui m'intéressait, mais j'étais pas prêt à me lancer. Et quand Guilhem se blesse et que du jour au lendemain, on se dit, bah, on peut plus partir, moi, je suis à un moment où, bah, j'ai arrêté toutes mes missions, où j'ai dit à tous mes clients, bon, bah, on se revoit dans quelques mois, et où, bah, tout d'un coup, je me retrouve avec 1 an de libre. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ça? Et donc, j'ai décidé d'aller chercher le positif dans cette situation. Et je me suis dit, bah, écoute, vois-le comme un signe. T'as cette idée, bah, t'as 1 an pour la lancer. T'as 1 an pour la lancer, et puis dans 1 an, tu verras. Et donc, j'ai créé, donc fin 2019, une société qui s'appelle Andonora. Et ça va te faire rigoler. Andonora, c'est la contraction de endorphine, dopamine, noradrénaline, qui sont ces 3 hormones qui font ce petit cocktail qui fait que tu te sens bien après
Ouais,
avoir fait du
c'est
sport.
bien un ingénieur qui déconstruit tout ça.
T'as vu? Et l'idée d'Andonora, c'est, nous, on crée des parcours sportifs outdoor, audio-coachés. Donc, audio-coaché, c'est quoi? C'est qu'en fait, notre application va guider l'utilisateur. On va lui dire, tiens, à la boulangerie, tourne à droite, mets-toi sur le trottoir de gauche, etc. Donc, un vrai guidage où on se met à la place du sportif. Et de temps en temps, ton téléphone, il va te dire dans l'oreille, stop, arrête-toi. Regarde sur la droite, il y a un banc. Et ben sur ce banc, on va faire des pompes faciles. On va faire des sauts, des box jumps ou des choses comme ça. Et donc comme ça, on crée des parcours sportifs pour des villes, pour des salles de sport, pour des événements sportifs, pour plein de gens, pour faire vivre une expérience un peu unique et originale avec une vraie expertise sportive, puisque mon associé a aussi un passé outdoor assez particulier dans les forces spéciales chez les commandos marines. Donc on a vraiment une vraie expérience expertise sportive qu'on essaie de mettre à disposition du plus grand nombre. Vraiment, on fait des parcours pour tout le monde, pour les gens qui veulent se mettre à une activité physique, tout comme on est capable de faire des choses pour aller gratter 5 minutes sur un semi-marathon. Voilà, tout ça est possible. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment à cœur de réussir du mieux possible ce challenge-là. Et ce projet, moi, c'est un vrai projet de vie parce que bah, tout d'un coup, je réunis mes passions à la fois pour le sport, pour l'entreprise, pour l'aventure. Et j'ai de grandes ambitions pour emmener très loin ce projet-là.
Ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite parce que oh, c'était vraiment super chouette, tu vois, de discuter avec toi. Là, je prends un plaisir, un kiff énorme. Et puis, je suis en train de penser aux auditeurs, tu vois. Là, tout de suite, tu viens de leur chambouler la tête, là. Ils sont en train de regarder leurs aventures, ils sont en train de regarder. Ils se disent, ah, mais comment je pourrais faire ça? Tiens, je pourrais faire ça, etc. Tu vois, je les vois, certains sont déjà en train de préparer leur paquetage, tu vois, là, sur le truc. Ils disent, allez, ce week-end, allez, tiens, là, je vais faire ma ligne droite. Et bon, après, ton application, ils vont se méfier un peu parce que maintenant qu'ils savent que tu fais des lignes droites, que tu passes par-dessus un truc, etc., ils vont peut-être se méfier un petit peu. Mais je suis sûr, tu vois, moi là, si j'étais pas blessé, tu vois, tu me donnerais des fourmis dans les jambes, tu vois. Moi, je serais parti tout de suite là, comme ça, là, plein pot, ligne droite, boum, jusqu'au sommet de ma petite montagne en me disant, tiens, est-ce que ça passe, tu vois. Et pour ça, je te remercie beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais
franchement, avec grand plaisir. Et enfin, vraiment, il faut oser, il faut se mettre en mouvement. Le reste derrière, ça suit, quoi, vraiment. Et tu vois, je repense à une anecdote. Enfin, tu vois, le Tour de France, quand j'ai eu cette idée, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Je me suis dit, je le ferai uniquement si je trouve un sponsor qui est assez fou pour me suivre. J'ai toqué à la porte de tous les constructeurs. Giant m'a dit, OK, on y croit, on y va. J'ai dit, OK, je me lance dans 6 mois. J'ai regardé mon compte Strava, 6 mois, en 6 mois, j'ai fait exactement 16 sorties vélo, pas une de plus. Par contre, toutes les sorties, je les ai faites dans des conditions que j'allais rencontrer sur le Tour de France. C'est-à-dire que je suis parti le jour où j'avais mal dormi, je suis parti le jour où il faisait super froid, je suis parti le jour où j'avais pas mangé la veille. Et à chaque fois, je me suis mis dans des situations parce que je savais que c'était ça le point sensible de la traversée. C'était pas de savoir rouler vite, c'était pas d'avoir une forme aérodynamique, c'était pas tous ces trucs-là, non, c'était de tenir. Et en fait, si on arrive à se poser cette question-là sur mon challenge, c'est quoi? C'est quoi les 2-3 trucs critiques qu'il faut que je travaille? Et c'est quoi la première étape que je peux enclencher sur chacun de ces points-là? C'est gagné. Après, il faut continuer de mettre l'énergie, il faut avoir la ténacité et la discipline pour continuer, mais le plus dur, il est fait. Ouais.
Ça, ce conseil-là, alors je ne sais plus quel invité l'avait déjà donné aussi entre mes différents podcasts, mais c'est vrai que c'est les coachs dans ce type d'aventure-là qui donnent ce conseil-là, en fait. Et je crois que c'est Cyril Blanchard en avait parlé. Bah, justement, oui, d'aller s'entraîner le jour où on n'est pas bien, parce que ça va arriver plus d'une fois. Sur le nombre de jours où t'as pas dû être bien, où ça faisait mal de partout, et tu te dis bah attends, et j'ai encore 3000 bornes à faire sur mon vélo, il faut quand même que je rentre à la maison, ma femme m'attend et mes enfants aussi, et il va bien falloir le faire d'une manière ou d'une autre, donc faut que je reparte. C'est vrai que c'est ça les conditions le plus souvent, et c'est pas dire j'ai dormi 8 heures la nuit, super bien, etc. Alors je parle même pas de traverser l'Atlantique parce que là c'est encore différent, mais c'est vrai que c'est un très bon conseil. J'ai quand même un truc, tu vois, parce qu'on parle d'un podcast sport, nutrition et autres, et je te prends un peu au dépourvu parce que je sais pas si on t'avait prévenu, je crois pas, mais est-ce que tu as un petit truc, tu vois, un petit plat qui te manque et une petite recette qui te manque et à laquelle tu pensais, tu sais, quand t'arrives à la Martinique là comme ça, quand vous posez le bateau là, hop, dans le port, est-ce que tu te dis, ah, vivement que je me fasse une petite ça, que je mange ça, ou tu vois, un truc qui te... Ton petit péché mignon, j'ai envie de dire, tu vois.
Alors en arrivant en Martinique, je l'ai pas eu tout de suite parce que le premier et le seul kiff, c'était juste de descendre de ce bateau, quoi. Vraiment, quoi. D'être debout, de pouvoir marcher, voilà. Déjà rien que ça. Par contre, mon petit péché mignon, et je pense que tu le connais puisque t'es en Auvergne, c'est la truffade.
Ah là là.
Voilà. Mais la truffade au Cantal. Pas à la tome.
Alors, on va être obligé de faire quelque chose et je le dirai, c'est-à-dire que tu vas nous dire la recette préférée de truffade et on va la mettre sur le compte Instagram, d'accord ?
Très bien.
Si t'as pas de photo, moi je me charge de faire une truffade à la maison et de faire la photo. Parce que ça, c'est un vrai sujet de débat en Auvergne, hein, pour que les non-auvergnats doivent le savoir. Chacun a sa recette de truffade, chacun a ses petites envies, etc. On rentre dans une période où c'est pas le plat le plus équilibré et c'est pas non plus le plat le plus adapté à l'été. C'est peut-être pas le plat le préféré pour aller courir si vous devez aller courir un marathon ou je ne sais pas quoi, hein, On est honnête.
Tout est question de proportion.
Voilà. Mais par contre, je comprends vraiment que quand tu arrives d'une sortie comme ça, d'une grande traversée comme ça, tu vois, tu te dis, ah, quand même, ça va me faire plaisir.
Ouais, complètement. Enfin, c'est vraiment, je tiens ça de mon enfance et j'y suis particulièrement attaché. Donc, ouais. Puis c'est un plat, une fois de plus, extrêmement simple à faire, qui est terriblement bon. Et comme tu dis, chacun a sa recette et c'est là la beauté du truc. Chacun adapte à ses envies, à ce qu'il a et voilà.
Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Alors, on peut pas se quitter sans avoir donné les liens pour suivre toutes ces aventures. Bien sûr, je les mettrai en note de l'épisode. On va repartager ça un petit peu sur Instagram partout. Mais dis-nous juste où te suivre par exemple sur Instagram.
Alors sur Instagram, c'est mon nom, Lilian _ Doza. Super original. Voilà. Et sinon, le blog où je condense toutes ces aventures, c'est One Year of Adventures. Et ça reprend l'idée de, bah, tiens, une aventure par an. Et ça a été lancé à l'occasion des micro-aventures en 2015. Et je continue de l'alimenter à chaque nouveau projet.
Ouais. Et aller voir vraiment le concept des micro-aventures. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. Tu vois, alors là, ce truc-là, moi, ça me botte. Tu vois, alors là, vraiment, ça me botte.
Parfait.
Mon entraîneur à nouveau, il me dit, il faut que tu trouves une grande cause, un grand projet, un truc et tout. Et en fait, je crois que les micro-aventures, c'est un truc qui me botte plus. Hein, tu vois.
Ah, mais ouais.
Et donc, ouais. Je vais garder ce concept-là en tête. Et dès que je pourrai recourir, et ben, tiens, je vais me chercher une petite micro-aventure pour la fin du printemps, le début de l'été. Et ça me botte vraiment. Et je te remercie vraiment beaucoup parce que je me suis régalé à t'entendre parler de ces aventures. C'était vraiment super, super génial. Et je pense que tous les auditeurs vont adorer aussi cette vision-là et tout de l'aventure que tu te la partages avec nous. Alors, merci beaucoup.
Super, merci beaucoup de m'avoir permis de la partager, je suis ravi.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant par exemple sur Instagram @podcastsportetnutrition et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.